7h19 à Paris, notre grand invité international ce matin est un homme de la mer, passé des sous-marins nucléaires au palais de l'Élysée, chef d'état-major de la marine française de 2011 à 2016, chef de l'état-major particulier des présidents François Hollande et Emmanuel Macron de 2016 à 2020. Amiral Bernard Rogel, bonjour.
Bonjour monsieur.
Et merci d'être avec nous ce matin sur RFI. C'était hier à Paris un sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, à l'issue duquel Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait bien une force de réassurance en cas de trêve en Ukraine, au moment où la Russie s'oppose fermement à tout déploiement de l'OTAN ou des Européens dans le pays. Il ne s'agira, dit le président français, ni d'une force de maintien de la paix, ni de force présente sur la ligne de contact, ni de force qui se substituerait à l'armée ukrainienne. Difficile donc de savoir de quoi il s'agira vraiment. Que faut-il comprendre de cette annonce selon vous ?
Il faut comprendre d'abord qu'on est dans un processus de négociation pour la paix, que les Occidentaux, dans leur ensemble, américains compris, veulent plutôt rapide. Là où la différence existe entre les Américains et les Européens, c'est que les Européens sont très attachés à ce que cet accord, cette négociation sur un cessez-le-feu puisse être équilibré et juste, en particulier pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de précipiter le mouvement pour aboutir à une sorte de capitulation de l'Ukraine. Donc on est dans ce moment-là. On est dans un moment de préparation ce qui pourrait être un accord de cessez-le-feu. Donc il faut comprendre que les Européens se mettent en ordre de bataille. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et cherchent peut-être à maintenir une ligne de crête face aux menaces de la Russie concernant un déploiement avec cette force de réassurance.
Je crois qu'on est encore dans un dialogue qui m'apparaît être un peu un dialogue de sourds aujourd'hui, avec un accord sur la mer Noire sur lequel on peut revenir, qui est un peu un accord en trompe-l'œil, sans mauvais jeu de mots, qui est le début de cette négociation. Donc dans toute négociation, les gens posent leurs cartes sur la table et puis on a un certain nombre en réserve. Je crois qu'il faut comprendre ce que je comprends en tout cas de cette déclaration du président de la République, c'est comment aider l'Ukraine à durer, si je puis dire, et aux armées ukrainiennes à durer. Il y a derrière tout ça des problèmes d'organisation, de maintien en condition des matériels qui ne sont pas forcément des actions de première ligne. Ouais. Donc on est vraiment dans cette volonté d'aider l'Ukraine. Sans doute avec une petite suspicion sur les intentions ultérieures
de la Russie. Poutine, oui. C'est en tout cas peut-être un pas de plus vers l'Europe de la défense. Après le plan de réarmement de 800 milliards d'euros présenté par Bruxelles il y a quelques semaines, il y a deux ans dans votre ouvrage Un marin à l'Élysée, vous regrettiez l'assoupissement stratégique du vieux continent après la guerre froide. Aujourd'hui, les Européens font donc des pas vers une défense commune. On parle même d'une potentielle dissuasion partagée. Que dites-vous ? Enfin, c'est pas trop tôt ?
Non, je dis tant mieux. Ouais. Je crois que quand on parle de l'assoupissement stratégique, entendons-nous bien, c'était la période 1995-2015, où finalement les pays occidentaux et singulièrement européens se considéraient dans une sorte de mondialisation heureuse, avec un monde qui était plutôt calme, géré par l'Organisation des Nations Unies, et sans menace existentielle aux portes de l'Europe, même s'il y avait des conflits autour. Donc dans cette période-là, les Européens se sont un peu assoupis sur le plan de la défense.
Mais depuis 2015, on leur reproche aussi de s'être assoupis entre les deux mandats de Donald Trump, et de ne pas forcément avoir préparé son retour.
Si vous voulez, il y a beaucoup d'Européens qui étaient... D'abord, c'est pas tout à fait exact pour la France, puisque depuis 2017, l'effort de défense a été considérable et nous permet aujourd'hui d'avoir des armées très opérationnelles. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais ce premier mandat de Trump pouvait être considéré par certains Européens qui sont dépendants, plus dépendants que nous des États-Unis. Je rappelle que nous, notre défense est quasiment indépendante, elle l'est pour la dissuasion, elle l'est pour la majeure partie des matériels. On a des technologies françaises un peu partout, donc on n'est pas tout à fait dans la même situation que les Européens. Donc ce premier mandat Trump pouvait apparaître pour certains des Européens comme étant un accident de l'histoire.
Une parenthèse.
Nous, ce qu'on prétendait à l'époque, c'est on disait, attention, quoi qu'il en soit, le pivot asiatique des Américains, c'est-à-dire la principale priorité stratégique des Américains, c'est la Chine. Donc on voyait ça. Là, on n'est plus dans un accident de l'histoire. Là, on est dans la confirmation d'une attitude américaine qui est plus auto-centrée sur ses intérêts et moins favorable, si je puis dire, à ses alliances.
Est-ce encore un allié ?
Oui, je crois qu'il faut pas enterrer les États-Unis trop vite. On a, me semble-t-il, toujours des relations militaires un peu partout dans le monde. On verra comment ça évolue. Ce qui a été entamé, c'est très clair, c'est la confiance. L'Alliance Atlantique, c'est une organisation de confiance qui est bâtie sur l'article 5. Je rappelle d'ailleurs que la seule fois où l'article 5 a été invoqué et suivi des faits, c'est pour défendre les États-Unis après les attentats
du 11 septembre 2001.
Donc c'est un peu paradoxal aujourd'hui qu'on se fasse reprocher par le vice-président de ce manque de prétendu de solidarité. Oui. On est solidaire depuis l'instant. Il y a une chance pour l'Europe aujourd'hui, une chance de pouvoir maîtriser son destin. Si il est confirmé que les États-Unis continuent à s'éloigner, eh bien je crois qu'il faut mettre le paquet pour reconstituer l'Europe.
En parlant de confiance, justement, ce qui a fait la une cette semaine aux États-Unis, c'est ce couac qui fait scandale, la révélation par le magazine The Atlantic que l'un de ses journalistes a été inclus par erreur dans une boucle de messagerie non sécurisée où les hauts responsables américains, le secrétaire de la Défense, le vice-président, partageaient en temps réel des informations sur un raid contre les Houthis au Yémen. On apprend aussi que des coordonnées et même parfois des mots de passe de hauts responsables ont fuité sur Internet. Quelles conclusions tirer pour les partenaires des États-Unis aujourd'hui, pour les pays notamment qui sont engagés militairement dans des opérations conjointes, dans des partages de renseignements ? Faut-il se méfier des informations qu'on partage désormais avec Washington ?
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un incident qui, de mon point de vue, pour avoir manipulé ce genre de données tout au long de ma carrière, est assez incroyable. En réalité, je pense que ces hauts responsables américains continuaient à utiliser ce qu'ils étaient les moyens qu'ils utilisaient pendant la campagne. Et moi qui connais bien les États-Unis, je peux vous assurer qu'ils ont des moyens cryptés autrement plus performants que Signal pour échanger leurs informations. Donc je pense que c'est une erreur de jeunesse, je veux dire un certain manque de maturité.
Un manque d'expérience aussi, quand on voit que des hauts gradés ont été limogés, que le ministre de la Défense est un ancien animateur télé.
On est dans des choix qui figuraient dans les intentions électorales de Trump. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se tromper. Les Américains ont choisi Trump une deuxième fois. C'est donc quelque chose qui est profond. Aux Européens d'en tirer les conclusions. Et la conclusion qui s'impose, c'est oui, les États-Unis sont encore notre allié jusqu'à un changement éventuel. Mais en tout cas, il faut qu'on mette le paquet sur notre autonomie et notre souveraineté européenne. Je crois que c'est la conclusion qu'il faut en tirer.
Et le plus vite possible, parce que si les États-Unis abandonnent l'Europe demain...
Mais d'abord, il ne faut pas rentrer dans une espèce d'hystérie d'inquiétude. On a des armées qui se tiennent en Europe. Quand on fait le bilan de toutes les armées européennes réunies, on arrive à l'équivalent de la Russie. On dispose en France d'une force de dissuasion nucléaire. Donc il faut s'organiser. Il faut organiser l'alliance, la nouvelle alliance européenne.
Merci amiral Bernard Rogel. Je rappelle le titre de votre livre paru il y a 2 ans. Un marin à l'Elysée, des sous-marins nucléaires au bureau du président. Merci beaucoup d'être venu sur RFI ce matin.
C'est un plaisir.
Très bonne journée et à bientôt.